Le journal de 18h en nouvelle diffusion.
Titre du journal.
Neige et soleil ont attiré les foules du côté de l'aéroport de Sion durant cette quinzaine de fêtes. Une activité qui donne une petite idée du potentiel encore à développer sur le tarmac. Hommage au rocker valaisan Bernie Constantin. Au lendemain de son décès, deux chanteurs, son neveu Eric Constantin et Paul McBonvin, lui rendent hommage, tous deux inspirés par celui qui était surnommé l'Iguane des Alpes. Une nouvelle structure d'accueil pour enfants verra le jour à Volège. 132 places seront réparties entre une nurserie, une crèche et une UAPE. Ce projet répond à une réelle demande de la population en forte augmentation dans les villages concernés. Et en page sport, suite et fin de notre série consacrée aux Valaisannes qui travaillent dans des fédérations internationales, on découvrira les coulisses de l'UEFA avec Yolande Comfer-Sévère.
Météo assez ensoleillé demain et dimanche, quelques précipitations samedi soir et un début de semaine prochaine changeant et doux avec la présence du fun. Prévision complète en fin de journal. Journal présenté par Oriane Bingli. Bonsoir.
Bonsoir.
Une centaine de mouvements au quotidien et quasi le double sur les week-ends.
C'est l'activité qu'a présenté l'aéroport de Sion durant la dernière quinzaine. Un carton, reconnaît son directeur Christophe Chollet. Une quinzaine sans accroc qui montre un véritable potentiel encore inexploité pour l'infrastructure. C'est ce que souligne le directeur Christophe Chollet qui est au micro de Christian Herman.
Oui, on pourrait se permettre bien sûr encore plus de mouvements. Là, on n'arrive pas au maximum, mais ça devient quand même quelque chose d'assez complexe hein, à gérer le trafic aérien dans ces conditions-là. Mais effectivement, on pourrait intégrer là sans aucun problème encore des vols charter et des vols de ligne aussi.
Financièrement, ça passe quoi? Une semaine normale par rapport à deux semaines comme on vient d'avoir maintenant?
Alors, c'est vraiment très difficile à calculer comme ça parce que chaque avion a son poids. En fait, ça dépend du poids de l'avion, ça dépend du nombre de passagers. Donc, c'est très difficile. Après, ça dépend aussi de quelle entreprise ils auront choisi pour l'assistance au sol. Donc, très, très compliqué quand même à calculer comme ça, directement de donner des justes chiffres.
Un bon chiffre pour l'aéroport, ça serait de tenir sur une moyenne à combien par mois?
Par mois, difficile parce qu'on est quand même dans une région qui est saisonnière hein, pour ce genre de vol. Mais je dois dire que si on pouvait faire tout du long de l'année ce genre de semaine, on serait très heureux. Ça serait magnifique.
Et dans des pics comme cette dernière quinzaine, vous devez renforcer le personnel, ça se passe comment?
Oui, alors surtout on doit avoir le personnel qui soit présent avec du personnel de piquet aussi pour ce qu'on appelle le piquet du feu, du service de sauvetage des avions. Donc on renforce aussi avec des auxiliaires, ça c'est le cas pour Noël, pour cette période-là.
En tout, ce sont 30 collaboratrices et collaborateurs qui ont fait tourner l'infrastructure avec l'aide d'une vingtaine d'auxiliaires. Les 10 membres du team affectés à l'entretien et au nettoyage des pistes a aussi été particulièrement mobilisés par la neige et surtout le gel. L'aéroport peut également compter sur Skyguide qui assure la sécurité des mouvements et de l'espace aérien. Le ciel valaisan était décidément bien bondé ces dernières semaines. Vacances tout aussi intenses pour les compagnies de sauvetage valaisannes. Air Zermatt tire le bilan des vacances de fin d'année ce vendredi dans un communiqué. Et comme toujours, il s'agit de l'une des périodes les plus intenses de l'année pour la compagnie. Ainsi, entre le 24 décembre et le 2 janvier, Air Zermatt a effectué 112 opérations de secours en hélicoptère. Et dans le même temps, les ambulances d'Air Zermatt étaient également très sollicitées avec un total de 51 mission. Dans le détail, les 27 et 31 décembre ont été particulièrement chargés avec 19 missions par équipe durant ces journées. Les opérations concernaient en priorité les amateurs de sports d'hiver, victimes d'accidents et d'urgences médicales. La Rega, de son côté, n'est pas en reste avec plus de 240 interventions, rien qu'entre le 31 décembre et le 2 janvier, soit 30% de plus qu'un an plus tôt.
Hommage à Bernie Constantin au lendemain de son décès.
Le rocker valaisan est décédé hier à l'âge de 77 ans, victime d'un AVC en 2013 qui lui a laissé des séquelles de mémoire. Le chanteur d'Ayen est toutefois remonté sur scène en 2016. Mais c'est surtout dans les années 80 que Bernie Constantin a connu le succès grâce à son tube Switzerland Reggae, vendu à plus de 200 000 exemplaires. En 60 ans de carrière, Bernie Constantin a commercialisé 6 albums toute sa vie et malgré son AVC et une fin de vie compliquée, la musique l'a toujours accompagné. Son neveu, le chanteur et humoriste Eric Constantin, s'en rappelle.
Que ce soit la musique qu'il écoutait, je dirais plus sur la fin que la musique qu'il faisait, hein, 100 ans, l'AVC, je dirais que ça l'a pas arrêté de faire de la musique. Il en a fait un rythme différent. Faut savoir que quand on fait de la musique depuis, je pense comme lui, hein, je pense qu'il fait de la musique depuis qu'il a l'âge de tenir une guitare. Il a été dans la fanfare d'Aïen, à l'écho du Raville. Enfin, je veux dire, ça fait partie de lui pour toujours. Jamais ça pouvait partir de son ADN, quoi. C'était vraiment ce qu'il était, que ce soit dans ses sujets de conversation où il parlait que de ça. Moi, mes enfants, ils parlaient que de la musique qu'ils écoutaient. Ils s'intéressaient toujours à ça. Je dirais qu'il y a des gens qui sont faits je ne sais pas, 80% d'eau. Lui, il était fait à 80% de musique, hein, je crois.
Chanteur dans le village voisin d'Arba, Paul McBonvin a bien connu l'Ayanto, Bernie Constantin. Il se souvient de leur première rencontre.
La première fois que j'ai vu Bernie, c'est devant l'église d'Arba. Je devais avoir, je sais pas, 8 ou 9 ans, je pense. C'est le premier groupe de rock que j'ai vu dans ma vie. Et c'est peut-être lui qui m'a influencé, va savoir. C'était les Anges Blancs déjà. J'ai un autre souvenir aussi, mais très loin, c'est que quand ils ont fait le dernier concert des Anges Blancs à Ayen, j'ai dit à mon frère, on va aller voir ce concert à Ayen. Et bien sûr, quand on a discuté avec mes parents, ça a été la guerre. Et on a fait le forcing pendant en tout cas un mois. Et finalement, ma mère, elle nous a accompagnés. On était allés voir ce fameux concert à Ayen, à pied dans la neige, les gars. Il n'y avait pas de route jusqu'à Ayen à l'époque. Ah ben, c'était une vedette. Hein. Déjà, dans les journaux, on parlait des Anges Blancs, un peu les concerts, la masse et tout ça, quoi.
À noter que les deux chanteurs ont joué quelques concerts ensemble. C'est d'ailleurs Bernie Constantin qui lui a soufflé l'idée de son nom de scène, Paul McBonvin. C'était un sujet réalisé par Didier Morard. Le Valais, avec Fribourg et le Jura, est le canton suisse qui a enregistré le moins de faillites d'entreprises l'an dernier. Au niveau national, le nombre de dépôts de bilan a cru de 15% en 2024 pour atteindre 11 506, dépassant de près de moitié le niveau des années pré-Covid 2018 et 2019. C'est ce qu'indique un communiqué du spécialiste de la gestion de créances Crédiforme publié ce matin. Coup de touchant 18% des sociétés, le surendettement est le principal responsable de cette nette augmentation des dépôts de bilan. Parallèlement, les nouvelles inscriptions au registre du commerce ont atteint des records en 2024. Le nombre de créations d'entreprises a progressé d'environ 2,6% par rapport à l'année précédente pour atteindre 52 970. Et là encore, les cantons présentent de grandes disparités. Le Valais figure ainsi parmi les cantons qui affichent des chiffres en hausse, alors qu'à l'autre bout du classement, Chafouz, Turgovie, Bâle-Campagne, Lucerne et Soleure font figure de mauvais élèves.
Une nouvelle structure d'accueil pour enfants à Volège.
Elle abritera une nurserie, une crèche et une UAPE. Au total, plus de 130 places sont prévues. Ce projet répond à une demande de la population qui a augmenté de près de 30% depuis 2010 avec une part importante de familles. Les bâtiments existants ne suffisaient plus pour l'accueil des enfants en bas âge et des écoliers. Située en face de l'école existante, cette nouvelle structure répondait donc à un besoin. Michèle Lac, vice-présidente de la commune de Val-de-Bagne et responsable jeunesse, formation et cohésion sociale.
Les locaux de la structure actuelle ne sont plus aux normes, ne correspondent vraiment plus à ce qui se fait actuellement en matière de bâtiments pour les structures d'accueil de la petite enfance. En plus, la population de Volège a quand même bien augmenté. On a des familles qui sont venues s'installer. Clairement, on manque de place. Notamment, on n'a pas actuellement de place en nurserie, donc pour héberger les 4-18 mois, on n'a pas du tout de place de nurserie à Volège.
Donc cette nouvelle structure est clairement attendue.
Oui, elle est clairement attendue, oui, oui. La population de Volège, par son assemblée primaire, avait déjà accepté un tel projet avant la fusion de communes.
C'était en 2019 déjà. Aujourd'hui, le projet est relancé. Il a été retenu à la suite d'un concours d'architecture. Guillaume Collin, directeur opérationnel construction, aménagement du territoire et mobilité à Val-de-Bagne.
Première étape, chiffrer le projet, faire ensuite développer le projet jusqu'au stade de l'autorisation de construire et solliciter le Conseil général de Val-de-Bagne pour un crédit complémentaire, puisque l'assemblée primaire de Volège avait validé un crédit de 2 millions, mais pour beaucoup moins de places. Donc on devra repasser devant le conseil général pour proposer cette nouvelle structure d'accueil. On les a déjà informés, ils étaient aussi invités au vernissage au mois de novembre. C'est un projet qui est attendu, donc on espère que tout se passera bien pour la suite.
Les coûts sont évalués à combien ?
On est en train de faire cette estimation, donc je ne veux pas communiquer de coûts aujourd'hui.
Selon Guillaume Collin, la nouvelle structure d'accueil devrait voir le jour d'ici 3 à 4 ans. C'était un sujet préparé par Nathalie Terretta.
La branche touristique tire un bilan extrêmement satisfaisant des journées entre Noël et Nouvel An.
En montagne, les nuitées devraient augmenter d'environ 3% par rapport à la même période de l'an dernier. La branche des remontées mécaniques suisse a également très bien débuté l'hiver, selon la fêtière remontées mécaniques suisse, RMS. Par rapport à la même période de l'année précédente, le nombre d'hôtes a augmenté de 18% selon la fêtière. Le Valais, dans le détail, enregistre 11% d'hôtes en plus que l'an dernier. Et RMS se dit par ailleurs ravi de constater que les petites stations de ski ont été très fréquentées. Les ventes de voitures neuves en Suisse et au Liechtenstein se sont repliées l'an dernier, alors que le nombre d'immatriculations a chuté de 5% à 239 535. L'affaiblissement de la conjoncture et des signaux politiques erronés concernant l'électromobilité ont pesé. La part de marché des véhicules branchés, à savoir les voitures électriques ainsi que des modèles hybrides rechargeables, a stagné à 28% en 2024. À l'étranger, Israël a affirmé ce vendredi avoir été visé par 3 projectiles tirés depuis la bande de Gaza, où les secours palestiniens ont annoncé la mort de 12 personnes dans des frappes israéliennes. Les secouristes ont retrouvé, selon lui, les corps de 12 Palestiniens, dont plusieurs enfants.
En ski alpin, Justin Murizier ne sera pas au départ du géant d'Adelboden la semaine prochaine.
Le bagnard a annoncé aujourd'hui sur son compte Instagram qu'il renoncerait au célèbre rendez-vous dans l'Oberland bernois. Après un mois de décembre vraiment difficile, avec des conditions de piste extrêmes et avec un genou qui montre des signes de fatigue, le sportif indique vouloir se reposer pour préparer le reste de la saison.
Du football, côté coulisses, pour terminer cette page sport.
C'est le dernier épisode de notre série Femmes et Fédération. Toute cette semaine, vous avez pu découvrir les rouages de l'UCI, de la FIS ou encore de l'Union Internationale de Patinage. Et pour ce dernier épisode, Hugo da Custodia nous plonge au cœur de l'UEFA avec le portrait d'une Haut-Valaisanne.
Depuis plus de 16 ans, Yolande Kempfer-Sever touche de plus près au rêve. Quand on aime le foot, à défaut de pouvoir en faire son métier en jouant, c'est la place où il faut être. Sur le terrain ou juste à côté, cette mère de 3 enfants, ancienne joueuse de Vétro ou du FC Sion Féminin, entre autres, a longtemps fait du siège de l'UEFA sa deuxième maison. Les flamboyants locaux de Nyon apportent une belle mise en perspective.
Je pense que le premier jour que tu entres et puis tu vois le bâtiment, il est quand même impressionnant. Quand tu rentres et puis tu vois le lac et puis toutes les coupes, etc., c'est quand même impressionnant. Après, ça a quand même beaucoup augmenté les dernières années. Donc, quand moi je commençais, on avait un bâtiment. Maintenant, il y en a 3. Donc, il y a beaucoup plus de personnes qui travaillent. Donc, c'est un domaine qui progresse énormément. Et puis, justement, le foot féminin, c'est vraiment le domaine qui, en ce moment, progresse énormément. Et puis, ça fait plaisir.
Après 14 ans au cœur de la machine UEFA comme employée fixe dans divers départements, la Haut-Valaisanne a fait un petit pas de retrait depuis 2022. Elle reste néanmoins sollicitée au coup par coup grâce à des mandats. Aujourd'hui, en tant que Venue Director, c'est le nom de son poste, elle fait le lien entre l'instance européenne et les clubs ou les nations lors des grands événements. De sa riche carrière, Yolande Kempfer-Sever fait sortir 2 moments du lot, un plus ancien et un tout récent.
C'était la finale en 2009, la première finale Women's Champions League que j'ai fait. C'était à Getafe. Et justement, beaucoup de personnes ne parlaient pas trop bien l'anglais, donc c'était super pour mon espagnol de pouvoir le pratiquer. Et puis, comme c'était la première finale, c'était beaucoup de choses étaient vraiment nouveaux pour tout le monde, donc c'était pas toujours facile, mais j'ai grandement apprécié. Et puis après cette année aussi, j'ai pu faire l'Euro masculin en Allemagne. J'ai fait le opening match à Munich. Et là, c'était quand même impressionnant, le nombre de personnes, le nombre de journalistes qu'il y avait. Tout ce qui va avec, justement, en général, c'est que le match de foot, on met personne sur le terrain avant. Là, il y a quand même une cérémonie qui est avant, il faut tout prendre en compte. Beaucoup, beaucoup de pression à gérer, mais c'était vraiment une belle expérience, c'était cool.
En charge du club allemand d'Heidenheim, pour la campagne de Conference League, Yolande Kempfer-Sever a multiplié les allers-retours en automne dernier. Elle y retournera prochainement, mais en 2025, elle aura un autre grand tournoi à livrer pour le compte de l'UEFA, et pas n'importe lequel.
Ouais, un euro à la maison, ça, c'est quand même quelque chose de très spécial. Je suis très contente que je peux y participer. Encore plus que je puisse être à Sion, parce que ça fait 10 ans que j'ai habité juste à côté. Je voyais un bout du terrain depuis mon salon, donc je connais le coin quand même assez bien. Je me réjouis vraiment énormément d'avoir une Euro en Suisse. Je me réjouis de voir plein de fans voir ces matchs à Tourbillon. Et puis je me réjouis vraiment d'être sur place.
Elle sera sur place avec la responsabilité ultime de faire démarrer les matchs à l'heure. Une des missions parmi d'autres qui incombe à cette Ovalaisienne.
Et sachez que tous les épisodes de la série Femmes et Fédération sont à retrouver sur notre site internet runefm.ch.
Merci Oriane. Prochain point sur l'info à 19h.
C'est
t'accompagne 24 heures sur 24
avec ses meilleurs moments. La recette du jour.
J'ai l'impression qu'on va se régaler.
Alors, on ne sait pas encore si on va se régaler.
Non mais on va faire une recette toute simple, hein, puisque c'est les fêtes encore, on va faire un truc sympa. On va faire une sauce citron.
Mais allez, malhonnête, même 24 heures après, t'arrives encore à te moquer de moi.
Oui.
Mais ça, alors vas-y, présente ta vraie recette, je peux te dire que je vais pas te louper.
Alors la sauce citron, prenez du citron.
Allez.
Non, on va faire un filet mignon en croûte.
Ok, alors ça a l'air plus compliqué, effectivement.
Alors, on a l'impression comme ça, ça sonne tout de suite hyper compliqué, hyper difficile à faire, mais ça peut être extrêmement simple. Alors il vous faut, pour faire un filet mignon en croûte,
du filet mignon
de porc.
D'accord.
Que vous prenez, que vous allez faire saisir de chaque côté très rapidement, 30 secondes à une minute, à feu assez vif, dans de l'huile ou du beurre, c'est comme vous préférez. Et vous faites ksh, 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 de chaque côté.
Les bruitages, on est sauvés.
Voilà. Ça, jusqu'à ce qu'il y ait une petite couche bien sympathique autour du filet mignon. À côté de ça, vous le réservez.
Mm-hmm.
Pendant ce temps, vous prenez une pâte feuilletée déjà abaissée rectangulaire. Vous pouvez faire votre pâte feuilletée, mais ça prend un peu plus de temps, puis vous n'aurez pas la forme rectangulaire parfaite. Donc, vous prenez une pâte feuilletée rectangulaire que vous achetez dans le commerce. Vous y mettez avec un pinceau de la moutarde.
Et beaucoup d'amour aussi.
Beaucoup d'amour aussi. Mm-hmm. Vous lardez le tout.
Larder.
Alors vous pouvez soit
larder.
Voilà, vous pouvez soit larder le filet mignon, soit poser les tranches de lard sur la pâte feuilletée au milieu en laissant de l'espace de chaque côté. Vous pouvez y ajouter aussi, si vous le souhaitez, une petite farce à base de champignons pistaches.
Par exemple.
C'est libre ou non. Donc prenez des champignons que vous faites légèrement revenir dans de l'huile avec un petit peu d'oignon et de la pistache concassée. Et puis vous allez mettre ça ensuite sur le lard. Lorsque vous avez fait tout ceci, vous n'avez plus qu'à prendre votre filet mignon qui a été réservé, le poser délicatement dessus, refermer le tout pour en faire une belle croûte. Vous mettez un petit peu de jaune d'œuf pour faire dorer tout ceci au four. Vous passez ça au four environ 30 minutes à 180 degrés et vous aurez un filet mignon en croûte exceptionnel d'ici peu de temps.
Eh ben, c'est pas très cool parce que du coup, je meurs de faim à 8h40. Merci pour ça.
I walked along a forbidden road. I had to know, where does it go? Like birds are flying to the sun, I had to run. I'm not the only one. Why do you look at me that way? I'm not a problem that needs solving. The truth is still evolving. Life is the choices that we make. We're the masters of our own fate. The painter and the paint. You need to lose your mind to get back to the light. Sometimes I walked along a forbidden road. I had to know, where does it go? Like birds that fly into the sun, I had to run. I'm not the only one. Maybe I'm never satisfied. I made a lot of poor decisions. Yeah, I made some revisions. And I'm still trying to get it right. I'm a living contradiction. The cure and the affliction. You need to lose your mind to get back to the light. Sometimes I walked along a forbidden road. I had to know, where does it go? Like birds that fly into the sun, I had to run. I'm not the only one. So do you love?
Rhône FM, séance de rattrapage.
J'avais envie de vous faire voyager et de vous faire bouger aujourd'hui avec ce Undercover. Laissez notre esprit s'évader vers des pays plus chauds, plus ensoleillés, comme le Mali, avec ce rythme-là.
Nous pas bouger. Nous pas bouger. Pas moyen de bouger. Nous pas bouger.
Originaire du Mali, Salif Keita est l'un des musiciens les plus influents du continent africain, connu comme la voix de l'or de l'Afrique. Il fait partie des musiciens reconnus de la world music et est l'un des principaux artistes de son pays. Un début de vie difficile hein, parce qu'il souffre d'albinisme dans une région où les albinos sont mal vus en raison des pouvoirs maléfiques qui leur sont attribués. Après ses études, il rêvait de devenir instituteur, mais il a été recalé à cause de sa mauvaise vue. Il a donc décidé de devenir chanteur, ce qui a créé un scandale dans sa famille. Traditionnellement, la musique est réservée à la caste des griottes et les Keita sont une famille de princes. Rejeté alors par sa famille, il part à Bamako en 1968 où il intègre différents groupes de musique et c'est suite à cela qu'il décide de s'installer en Côte d'Ivoire d'où il enregistre son premier album en 1978. Une discographie à la suite de ça qui s'élargira avec notamment son album Folon dédié aux enfants albinos pour lesquels il crée une association. Et souvenez-vous, c'est en mai 2002 que Salif Keita sortira finalement l'album Mofou, composé de plusieurs titres mondialement connus comme celui-ci. Et si ce titre ne vous dit pas grand-chose, peut-être celui-ci vous parle. Son duo avec Cesaria Evaria, la Capverdienne au timbre de velours. Ce sont des chansons immortelles qui ne vous quittent plus dès la première écoute. Yeah. Et c'est un titre hein, qui vous dit peut-être quelque chose ces temps, car c'est une reprise que l'on entend beaucoup sous cette forme-là. De culture et de pays avec cette reprise de Mo Black, une reprise qui permet aujourd'hui de continuer à bouger grâce au chef-d'œuvre de Salif Keita. Du pur bonheur. Merci beaucoup.
Rhône FM. Rhône FM.
Feel right now. Oh, I've been so down and under. a woman to pump me up. Feeling fussy, walking in my Balenciennes, trying to bring out the fabulous. Cause I give a fuck way too much. I'ma need like two shots in my cup. Wanna get up, wanna get down. That's how I feel right now.
Thank you. assez, je me dirai à moi-même que si je me reconnais pas, que si je suis plus la même, c'est peut-être grâce à moi. Et je vole encore, encore mes joies, j'en veux encore, même si je comprends pas pourquoi je change. Et quelquefois, j'ai tellement peur que la nuit ne vienne pas. Car quand je dors, je rêve de ça, de tout comprendre et de savoir pourquoi. Sur des accords un peu maladroits, j'arrive encore à capturer mes joies. Je voudrais tout savoir et voir dans le noir. Je voudrais tout savoir et voir dans le noir. T'as laissé un peu derrière toi ton personnage d'avant. Y a jamais de bon moment. T'as marché, t'as couru, c'est bien, mais allonge-toi maintenant. Raconte, analyse tes histoires, ça évite les pansements. Et je me dirais à moi-même, tu vois, fais-toi confiance, que tant qu'on a ce qu'on aime, on a déjà de la chance. Et je vole encore, encore mes joies, j'en veux encore, même si je comprends pas.
Invité, c'est Jonathan Platé, responsable communication de Anser Tourisme. Bonjour Jonathan.
Bonjour Malena.
Merci d'être avec nous pour découvrir les différentes animations, les événements dont on peut profiter à Anser durant cette saison d'hiver. Mais tout d'abord parlons de ski. On imagine que la saison bat son plein, tout est ouvert, on peut profiter de toutes les pistes.
Et c'est un carton je crois.
Oui, alors effectivement c'est un carton, la neige est bien là, le soleil était là pendant les vacances, donc je pense que les gens qui sont venus à Anser sont repartis ravis. Et puis l'hiver bat son plein exactement.
Donc, il y a eu une petite couche de neige fraîche là cette nuit.
Bah moi je viens de Sion, donc j'aurai la surprise tout à l'heure, mais je manque pas de vous faire un point météo par WhatsApp.
Un retour par après.
Avec
bonne
plaisir.
Surprise, on espère en tout cas. Donc on passe la journée sur les pistes de ski et puis la fin de journée au bain à 11h. C'est le combo parfait.
C'est ça, le combo parfait qu'on peut combiner aussi avec une terrasse en fin de journée sur les pistes pour vraiment profiter de tout ce que peut offrir Anser.
Voilà, donc on en profite. Et en plus de ça, vous ajoutez des activités, on disait des événements à Anser, notamment le 5 février avec la Jipa Race. Qu'est-ce que c'est ? Expliquez-nous.
Exactement, donc on a un public qui est assez sportif, qui vient de la région, mais pas que. Et du coup, on organise une course de ski alpinisme, donc la Jipa Race qui a lieu le 5 février. C'est une course verticale de ski de randonnée, donc la partie chronométrée part d'Anser et va jusqu'au Pas de Mimbré. Et puis en haut, après, il y a la possibilité de se restaurer. Donc c'est vraiment un événement sympathique qui lie performance et puis un cadre plutôt convivial.
Donc il faut avoir un petit niveau déjà.
Il faut avoir un petit niveau. Il n'y a pas de limite. Il y a une limite de temps, mais elle est très accessible. Donc c'est une bonne course aussi pour les personnes qui veulent essayer. C'est 800 mètres de dénivelé positif. Donc effectivement, il y a quand même certains prérequis.
Il y a de la neige à Anser. Hein. Je viens de recevoir une magnifique photo d'apparemment quelqu'un qui conduit une ratraque.
Magnifique. Ouais, bah alors peut-être Brian Bonvin ou quelqu'un comme ça qui travaille pour.
On balance des noms.
Pour les montées mécaniques.
J'ai le nom, mais
ça du bien.
J'ai le nom, mais je sais pas si j'ai le droit de le dire.
Ah, alors on.
On garde le suspense.
Mais il y a de la neige.
T'as gâché la surprise pour Jonathan quand il arrive en haut.
Non, mais comme ça, il sait qu'il peut mettre les chaînes.
Exactement. Pour anticiper la montée. Donc la course de ski de randonnée, j'y pareil, ce sera le 5 février. On s'inscrit avant, c'est mieux.
Oui, on s'inscrit sur réservation.anzer.ch. Les réservations sont déjà ouvertes.
Ok, donc on fonce, on s'inscrit, comme ça on profite de cette belle journée au mois de février. Également durant ce mois-là, Pierre Crépeau sera sur les pistes d'Anzer. Qu'est-ce qui est prévu? Expliquez-nous.
Oui, alors Pierre Crépeau, depuis l'année dernière, propose une table éphémère sur les pistes d'Anzer, accessible uniquement à ski. Et la table, cette année, aura lieu à 4 dates différentes. Donc le 6, 7 et 14, 15 février. Il reste des places pour les trois premières. La dernière est déjà complète, donc les places sont extrêmement limitées. Si vous êtes intéressé par cet événement, dépêchez-vous de vous inscrire, pareil sur réservation.anzer.ch.
Bon, ben, on le comprend, il y a plein d'événements dont on peut profiter à Anzer. On continue d'en parler avec vous, Jonathan Platé, dans quelques minutes. À tout de suite.
À tout de suite.
Je préfère danser avec mes silences. Pour tout recommencer en quelques pas de temps. Et s'il ne reste plus rien du tout, et que tout tourne, tourne, tourne autour de nous, je t'écrirai une chanson pas comme les autres. Et si tout tourne, 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 ce sera la nôtre.
Les plus grands artistes, les plus grands hits.
Right about now. Hey y'all, this is Cardi B.
Yo, what up, it's Rihanna.
What's up, y'all, I'm Beyoncé.
Hello guys, we are Offenbach.
RON FM, playing all the hits.
I've been chasing
Trouvez vos programmes préférés en nouvelle diffusion tout au long de la nuit. Good Morning Valais.
On retrouve Jonathan Platé, responsable communication de Anser Tourisme, pour continuer à découvrir les nombreux rendez-vous de la station cet hiver. On en a déjà évoqué quelques-uns, notamment en termes de sport, de gastronomie, mais aussi de la culture qui nous attend à Anser, avec notamment l'association Anser Culture, qui organise quoi comme événement, par exemple ?
Alors, depuis cette année, effectivement, on a la chance d'avoir l'association Anser Culture qui propose tout un programme durant l'hiver. Et on retrouve beaucoup de choses très différentes. On a des concerts, on a des soirées humoristiques, des projections de films. Et ça, c'est vraiment réparti sur l'ensemble de la saison hivernale.
Ça manquait à 11h avant ?
C'est quelque chose qui manquait. On n'avait pas non plus les infrastructures. Et puis, la commune a investi dans une salle qui nous permet de faire notamment des spectacles de stand-up. Donc, c'est vraiment chouette. C'est une nouveauté. C'est quelque chose de tout frais. Donc, on se réjouit de voir comment ça va évoluer.
Ça répond à une vraie demande des touristes ?
Ça répond à une demande, en fait, non pas en amont de leur séjour, mais plutôt à, une fois qu'ils sont sur place et puis qu'ils ont des soirées un peu plus vides, entre guillemets, ça répond à une envie de proposer une animation un peu particulière et puis liée à la culture à la fois de la région et puis à la culture en général.
Parce que c'est pas toujours facile de programmer des stand-up avec notamment tous ces touristes qui ont parfois une langue maternelle différente du français.
Oui, alors effectivement, pour les touristes de langue étrangère, ça peut être compliqué. On a quand même une clientèle qui est largement suisse et largement francophone. Donc en ce sens, ça répond bien à un besoin.
Oui, ça fait déjà plaisir à pas mal de monde. C'est rendez-vous culturel à retrouver évidemment sur le site d'Anser. Comme ça, on a le programme complet. Autre rendez-vous qui nous attend d'ici quelques semaines, quelques mois, c'est la journée de dingue. En quoi ça consiste ? Qu'est-ce que c'est ?
Tout à fait. La journée de dingue aura lieu le 15 mars. C'est un événement un peu particulier organisé en collaboration avec le restaurant du Pas de Mimbré. C'est surtout le restaurant qui a l'initiative du projet. Et en fait, c'est un événement qui lie base jump et puis bien vivre et bien profiter de la région. Ce sont des démonstrations de base jumpers qui sont largués en hélicoptère au-dessus de la vallée de la Sionne et puis qui survolent la terrasse du Pas de Mimbré. Donc durant toute la journée, il y a des animations, il y a effectivement les shows aériens, donc c'est une journée extrêmement impressionnante. À la fois pour les enfants, mais aussi pour les adultes.
Ouais, elle porte bien son nom, la journée de dingue. Vous la retrouvez, tout comme toutes les autres activités, sur le site anser.ch. Merci beaucoup, Jonathan Platé, d'avoir été avec nous ce matin. On vous souhaite une belle suite de saison et à tout bientôt.
Merci beaucoup, à bientôt.
Rhône FM.
Sur ton smartphone
avec l'application de ta radio.
Listen anytime, anywhere. Rhône FM.